Bonjour et bienvenue dans le podcast Penser la santé. Cet épisode est consacré aux questions posées par la collégialité en santé. Lorsqu'on aborde la prise de décision, elle est toujours associée à l'idée de délibération. Comme le soutient Aristote, on ne peut pas prendre une décision libre sans délibération, c'est-à-dire sans peser le pour et le contre, sans mener une introspection concernant les moyens, les conséquences, les enjeux et les buts de cette décision. Prendre une décision relève de la responsabilité de celui qui aura à l'assumer et à l'accomplir, mais elle est toujours l'objet d'une réflexion sous la forme d'un débat. Dans le cas de la santé, la décision médicale relève toujours de la responsabilité du médecin. Pour autant, lorsque la décision concerne une situation de soins complexes, la délibération doit être extériorisée et partagée dans un dialogue avec d'autres professionnels de santé. On parle alors de collégialité. Le terme collégialité renvoie à une situation de coopération dans un groupe de personnes où les différences de niveau hiérarchique n'interviennent pas. Une décision collégiale, c'est une décision qui appartient à la communauté. La collégialité en santé constitue une ouverture de la réflexion sur la décision qui sera prise par le médecin. Toutes les formes de collégialité ne peuvent fournir que des avis, que le médecin peut ou non prendre en compte dans sa décision. Cependant, la collégialité fournit des occasions de penser avec les autres professionnels. La loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 a renforcé l'importance de la collégialité car elle rend obligatoire le recours à une procédure collégiale pour les décisions qui concernent une personne en fin de vie. Cette procédure collégiale donne lieu à ce que l'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire, RCP, c'est-à-dire une réunion dans laquelle chacun des membres de l'équipe de soins est invité à exprimer sa position. On peut avoir l'impression que la collégialité est une obligation juridique qui ajoute une sorte de lourdeur quasi administrative à la décision médicale, mais les textes décrivent souvent la démarche collégiale comme un procédé qui vise à améliorer la qualité de la prise de décision médicale. La procédure collégiale est considérée comme un moyen concret de faire entrer l'éthique dans le quotidien des services de santé en prenant le temps de mener une discussion argumentée où chacun a la possibilité d'exprimer ses doutes, ses certitudes ou son ressenti vis-à-vis d'une situation. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? Est-ce qu'on peut vraiment partager la délibération médicale? Et comment les paramédicaux trouvent-ils leur place dans ces procédures? Pour discuter de ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Gilbert-Fontan, qui est médecin dans l'équipe de soins palliatifs au CHU de Toulouse, et Anne-Séverine Payet, qui est infirmière cadre de santé et qui exerce des missions de coordination territoriale. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, je vais commencer par une première question qui est assez générale, finalement. Lorsqu'on parle de collégialité en santé, cela ne concerne pas toutes les décisions médicales, c'est-à-dire un médecin ne peut pas sans cesse faire appel à la procédure collégiale. Est-ce que vous pourriez préciser quelles sont les décisions qui sont concernées par ces procédures?
Donc il faut différencier la collégialité, les procédures collégiales et les réunions de concertation pluridisciplinaire. La collégialité, c'est-à-dire les discussions entre différents professionnels en charge d'un patient, est indispensable pour amener la réponse la plus appropriée au patient en termes de diagnostic, de projet de soins, et pour pouvoir améliorer la compréhension de la situation clinique et également pour que chaque professionnel de santé en charge du patient soit dans la même dynamique. Elle est bénéfique pour le patient, mais aussi pour les soignants, puisque participer à cette prise de décision et être informé des projets, bien ça permet de diminuer la souffrance des soignants. La procédure collégiale, ça c'est une entité particulière qui est définie par voie réglementaire. Mmh. C'est la réunion de deux médecins sans lien de hiérarchie entre eux, dont un qui va être appelé en tant que consultant, c'est-à-dire qu'il ne va pas participer directement aux soins du patient, et de l'équipe de soins si elle existe. On peut faire appel à un troisième médecin en cas de complexité plus importante. Alors pour cette procédure collégiale, il y a trois situations où elle est obligatoire. C'est la réflexion autour de la mise en place de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Les limitations ou arrêts de traitement chez un patient qui est en incapacité de pouvoir exprimer son consentement. Et la caractérisation comme manifestement inappropriée des directives anticipées.
Mmh. Donc, une lecture par les professionnels de ces directives anticipées, ça fera l'objet d'un autre épisode d'ailleurs, une lecture des directives anticipées pour essayer de comprendre si elles sont adéquates à la situation vécue par le patient, c'est ça ?
C'est exactement ça. Quelquefois, le patient s'imagine une situation et la situation qu'il est en train de vivre n'est pas celle-là. Donc, on peut les considérer comme manifestement inappropriées.
Ou par exemple, si elles ont été rédigées d'une manière qui n'est pas adéquate à ce que sont les soins, peut-être aussi, quelque chose comme ça. Et donc, oui, vous avez dit... le choix d'une sédation profonde et continue, la lecture des directives anticipées et la troisième...
Les situations de limitation ou d'arrêt de traitement chez un patient qui a une incapacité de pouvoir exprimer ses souhaits.
D'accord. Ce que j'entends, c'est aussi qu'il y a dans ces situations précises, il y a un recours à la procédure collégiale sous la forme d'une concertation pluridisciplinaire. Mais avant ça, on parle quand même aussi de collégialité pour le fait qu'un médecin consulte un pair extérieur au service, non ? Jamais ?
Oui, bien sûr, oui. Ouais. Tout à fait, oui.
C'est un terme qui s'applique aussi parce que je me souviens pendant la pandémie, par exemple, il y avait beaucoup de recherches de collégialité. Et au début, quand j'entendais ce mot, je pensais réunion pluridisciplinaire, bien sûr. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il était aussi beaucoup employé par les soignants comme recherche de discussion avec un pair, tout simplement. Que ça pouvait donc se tenir au téléphone.
Tout à fait. Et ça, c'est indispensable au quotidien dans les soins.
Oui. Et ça, c'est plutôt recherché par le médecin qui sent qu'il a besoin de discuter, par exemple. Ça peut être en dehors des situations que vous avez citées.
Tout à fait. Voilà.
D'accord.
Et ça, pour mieux comprendre la situation du patient et pouvoir prendre la décision la plus juste possible.
Et alors, qui doit convoquer une procédure collégiale ? Est-ce que c'est le médecin qui dirige le service ? Est-ce que c'est le médecin qui s'occupe du patient ? Est-ce que ça peut être une autre personne ?
Alors oui, plusieurs personnes peuvent convoquer cette procédure collégiale. Ça peut être le médecin, ça peut être également le patient ou bien ses proches.
Évidemment. Le patient peut convoquer, ouais. Alors, comment il fait ? Vous voulez peut-être Anne-Séverine ajouter quelque chose ?
Oui, alors effectivement, cette concertation pluridisciplinaire, elle peut être à l'initiative de différentes personnes. Dans l'idée commune, on a plutôt tendance à penser qu'elle est à l'initiative de l'équipe médicale ou paramédicale. Mais effectivement, le patient peut solliciter par l'intermédiaire de tout professionnel qui sera à son contact la nécessité d'une réflexion concertée, partagée, d'un débat autour d'une situation qui sera vécue ou qui sera réellement une situation complexe pour ce patient. Alors, quelle forme cela peut prendre ? Cette sollicitation, elle n'est pas nécessairement formalisée en des termes très...
Il n'y a pas un formulaire, par exemple, à remplir ou... Un courrier à adresser ?
À ma connaissance, non.
D'accord.
Non, effectivement, c'est toute l'intention de pouvoir préciser que cette demande, elle peut revêtir différents caractères. Elle peut être formulée de différentes manières. En tout cas, à partir du moment, me semble-t-il, et je parle sous le contrôle de l'oreille d'Émilie, mais à partir du moment où la nécessité d'un partage de réflexion émerge, alors cette réflexion collégiale peut se tenir, qui que soit la personne qui va faire émerger cette nécessité.
Convoquer une réunion de ce type de réunion, là on parle vraiment des réunions de concertation pluridisciplinaire, est-ce que lorsque, par exemple, si c'est le médecin, s'il convoque une réunion de ce type, est-ce que vraiment c'est dans ce moment de la discussion et du débat que la prise de décision va se faire ou est-ce que c'est simplement une manière d'annoncer la décision médicale finalement qu'il a déjà prise ? C'est-à-dire, est-ce que cette réunion, elle peut vraiment être le lieu d'une prise de décision ? Parce que si je pose cette question, c'est parce qu'on voit qu'il y a une question de hiérarchie qui n'est pas toujours évidente dans le cadre hospitalier ou en santé. Et donc, je me questionne un peu si les médecins arrivent à se saisir de ce lieu comme d'un lieu de débat effectif, quoi.
La réunion de concertation pluridisciplinaire, ça va être une entité particulière. Ça s'est développé initialement dans le domaine de la cancérologie, puis ça s'est étendu à d'autres domaines. Et c'est extrêmement intéressant dans les situations qui sont ou très complexes ou bien dans des cas de situations rares ou de pathologies rares. Il y a des recommandations qui permettent d'aider à l'organisation de ces réunions de concertation pluridisciplinaires. Et donc, il va y avoir au cours de cette réunion une discussion entre les différents professionnels de santé et à la fin, un avis est rédigé. Il peut y avoir une différence entre le traitement qui finalement sera délivré au patient et la proposition de la réunion de concertation pluridisciplinaire en fonction du colloque singulier entre le médecin et le patient, mais bah, les raisons devront alors être argumentées par le médecin référent. Mmh. Les raisons de ce choix qui diffèrent par rapport à l'avis émis par la réunion de concertation pluridisciplinaire.
Il y a un engagement finalement vis-à-vis du collectif que forment les soignants, c'est ça ? Ce que je comprends. C'est-à-dire, une fois qu'on est rentré dans cette démarche, évidemment, le médecin, à la fin, c'est lui qui décide. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est sur lui que porte la responsabilité du point de vue légal. Mais il s'engage dans cette procédure ou dans cette discussion, dans ce débat. Et en quelque sorte, il doit rendre des comptes au collectif, quelque chose comme ça.
C'est vraiment une discussion collégiale et une décision individuelle à la fin. Donc, vraiment l'intérêt que les différents avis se confrontent, parce que ça va permettre une réponse plus pertinente à la situation du patient. Et donc, il va y avoir cette discussion et après, un avis émis et le médecin qui prendra la décision au final.
Final, oui, d'accord. Et ce sera à lui de l'expliquer aux patients ou aux proches, j'imagine.
Voilà, tout à fait.
Donc, il doit l'assumer aussi dans cette discussion-là, c'est ça ?
Tout à fait.
Si je peux me permettre, pour compléter le propos d'Émilie, dans mon idée, il y a deux notions. Il y a la notion de la collégialité et de la concertation, qui sont des notions qui peuvent apparaître à tout moment, finalement, de la prise en soin et de l'accompagnement d'un patient. Et il y a le temps de la formalisation plus encadrée de cette concertation et de cette collégialité qui peut émerger dans le temps de la réunion de concertation pluridisciplinaire ou RCP. Mais je crois que la collégialité et que la concertation peuvent poindre à tout moment de la journée d'un soignant. Elles peuvent intervenir au temps des transmissions, elles peuvent intervenir sur des réunions qui peuvent être hebdomadaires organisées au sein des unités de soins ou même sur les secteurs de soins extra-hospitaliers qui permettent de réunir les professionnels, mais qui peut-être ne vont pas prendre une forme aussi réglementaire et aussi structurée que le serait la réunion de concertation pluridisciplinaire.
Oui, c'est moins formalisé, mais finalement, l'esprit de la collégialité est dans le quotidien des soignants, quoi.
Tout à fait, effectivement.
D'ailleurs, Anne Séverine, vous avez une formation d'infirmière. Est-ce que dans une école, quand on apprend ce métier, est-ce qu'on est formé à la collégialité d'une manière ou d'une autre ?
Alors oui, on y est formé par plusieurs éléments. On y est formé déjà par la structuration de la prise de parole et de l'expression à la fois de la situation de santé du patient au cours, par exemple, de la formation à la prise de parole dans les transmissions en équipe pluridisciplinaire, ce qui permet en premier lieu de structurer la prise de parole et la transmission de l'information. Et puis, on y est aussi formé de par la nécessité des regards croisés, qui est un élément auquel on est sensibilisé puis formé dès le début de l'entrée en formation initiale et d'ailleurs tout au long de la formation continue. C'est une notion, se nourrir des avis des uns et des autres, les regards croisés partagés au sein d'une équipe, quel que soit le niveau hiérarchique de chacun d'ailleurs, qui est un élément fondamental sur lequel nous reviendrons sans doute par la suite de notre échange. Mais tous ces éléments sont transmis et sont en filigrane de la formation initiale que l'on peut recevoir dans les soins infirmiers, tout comme dans les autres formations paramédicales et médicales, d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, Émilie, est-ce que quand on fait ses études de médecine, on est formé à cette collégialité ?
Alors, je dirais de plus en plus.
D'accord.
Hein, avec, il y a des séminaires d'enseignement qui sont maintenant en interdisciplinarité. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On voit que les jeunes générations sont vraiment aussi dans cette recherche de discussion avec les pairs, mais aussi avec les autres professionnels de santé. Et je voulais rajouter aussi que là, on parlait pas mal de travail d'équipe en institution, mais on le voit aussi vraiment en ambulatoire ou dans des situations, par exemple, de cabinet de ville, où on recherche de plus en plus aussi cette collégialité. Mmh. Et c'est un atout très important à la fois pour le patient et les soignants, comme on le disait tout à l'heure.
Et oui, justement, comment ça se passe concrètement si un spécialiste qui reçoit dans son cabinet a besoin de collégialité, comment il fait ?
On voit qu'il y a de plus en plus de cabinets de groupe qui sont mis en place. Hein, donc déjà, dans l'organisation du travail, on voit qu'il y a cette recherche de collégialité et de travail en équipe. Et puis après, il peut y avoir des appels à des équipes ressources. Donc ça aussi, c'est intéressant.
Oui. C'est vrai que récemment, j'ai reçu des membres de l'équipe ressources sur la SLA et qu'elles ont exactement ce rôle aussi. Elles sont sollicitées très souvent. Alors, lorsqu'on parle de la démarche collégiale, tous les professionnels de santé donc sont associés dans un service, je veux dire, tous les professionnels, ça va des médecins aux aides-soignants, aux psychologues, ergothérapeutes, kinés. Donc, de nombreuses compétences sont sollicitées. Dans la théorie, chaque professionnel qui participe à une procédure collégiale doit pouvoir exprimer sa position, c'est ce qu'on disait, et ses arguments, dans le cadre de la réflexion sur une décision, donc à propos de la situation d'un patient en particulier à chaque fois. Mais dans les faits, j'imagine que c'était un petit peu le sens de ma question sur la formation des paramédicaux. Dans les faits, j'imagine que c'est beaucoup plus difficile pour un paramédical, qu'il s'agisse d'une infirmière ou d'une aide-soignante, de pouvoir s'exprimer en se sentant finalement légitime devant les autres professionnels, notamment les professionnels médicaux. Si la personne est jeune dans la profession, ça peut représenter par exemple un obstacle. Comment on fait pour que dans la pratique, l'expression de chacun puisse être libre?
Alors, il me semble qu'en premier lieu, il y a la nécessité d'instaurer un grand climat de confiance et de respect mutuel dans l'expression libre du point de vue de chacun. Nous sommes tous sans doute convaincus de cet élément-là, en théorie. Par contre, le mettre en application, effectivement, parfois, c'est plus complexe. Cette question de la confiance ne se travaillera pas, je crois, exclusivement au temps de la réflexion collégiale. Elle se travaille en continuité, elle se travaille en routine. C'est un climat qui s'instaure au quotidien. Et plus les intervenants se connaissent, je crois, et plus l'expression est facilitée, ce qui n'est pas toujours nécessairement le cas. Lorsque ça n'est pas le cas, je crois qu'il y a peut-être deux éléments qui peuvent aider. Le premier, c'est de reformaliser l'intention de la rencontre de tous ces professionnels autour d'une table à cet instant T de la prise en soin d'un patient. Qu'est-ce qui fait union entre chacun des professionnels à ce moment? Qu'est-ce qui nous réunit autour de cette réflexion? Et toujours garder en ligne de mire, qu'est-ce que l'on vise dans cet échange? Ce que l'on vise, c'est pouvoir partager des points de vue divergents, sans doute, et j'aurais envie de dire que plus ils sont divergents presque et plus la discussion sera riche.
Oui, finalement, on ne se réunit pas pour dire qu'on est tous d'accord. Peut-être.
Exactement, ouais. Exactement. Et puis le temps de ces réflexions de collégialité émerge bien souvent dans des situations, rappelons-le, qui sont des situations complexes. Il est rare qu'on se retrouve pour une concertation ou une collégialité sur une situation qui ne pose problématique à personne, effectivement.
Ouais.
Et donc ce degré de complexité fait que l'intention et de pouvoir agir au mieux dans une situation complexe à un instant T. Mmh. Et donc ça, je crois que rappeler la complexité, ça peut contribuer à instaurer ce climat de confiance en disant qu'il n'y aura pas de bonne ou de mauvaise décision, il n'y aura pas de bonne ou de mauvaise solution à l'issue de la réflexion, mais qu'en tout cas, chacun est dans l'intention d'agir au mieux pour un patient dans une situation complexe. Mmh. Et je crois que ça peut vraiment contribuer au climat de confiance. Et puis, si nécessaire, rappeler aussi les valeurs qui nous portent.
Oui.
Le respect, l'écoute bienveillante, laisser, ce sont des choses très, très peut-être pragmatiques qui formalisent ce temps d'échange, mais veiller au respect du temps de parole de chacun, veiller à ne pas interrompre celui qui prend la parole, qui peuvent paraître des éléments très simples, mais qui finalement, parfois, peuvent nous détourner d'une intention parce qu'on veut donner son point de vue, parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on veut débattre. Mmh. Et donc, cela peut amener à interrompre l'intention première, à couper la parole. Et donc, ces petites choses mises bout à bout peuvent générer des réticences à la prise de parole à ceux ou celles qui ne se sentiraient pas forcément légitimes à cet instant-là.
Et alors, ce cadre dont vous parlez, c'est-à-dire rappeler le cadre, rappeler le but, ouvrir la réunion ou les échanges dans un climat de confiance. C'est à qui de le faire, ça? C'est le médecin? C'est le cadre? Ça dépend?
C'est bien qu'il y ait un animateur de la réunion qui soit désigné. Mm-hmm. Quelqu'un qui soit peut-être un peu plus extérieur au niveau des émotions pour pouvoir s'assurer que les règles de bonne conduite sont bien tenues, que le temps de parole est partagé, que chacun, en tout cas toutes les personnes qui voulaient s'exprimer ont pu le faire. Donc quelquefois c'est pas mal qu'il y ait quelqu'un d'extérieur pour un animateur pour le débat.
D'accord.
Et c'est vraiment, comme le disait Anne-Séverine tout à l'heure, c'est vraiment une dynamique qui se crée, il faut que ça soit une démarche volontaire et c'est quelque chose qui se travaille vraiment au quotidien.
Je crois, si je peux me permettre, effectivement, que ce que tu évoques là, Émilie, la volonté de participer, c'est aussi un élément fondamental. Je crois qu'il ne faut en aucun lieu contraindre à participer à une réflexion collégiale.
Oui, parce que finalement, ce que je disais, c'est ça, c'est-à-dire tous les professionnels du service, en principe, sont invités à participer. Mais est-ce qu'ils le doivent ?
Ils le devraient dans leur déontologie. Après, chacun, au regard de son degré d'engagement dans la situation, parce que nous restons éminemment des humains face à des humains, et que chacun ne fait pas toujours comme il veut, mais parfois comme il peut, face à une situation dans laquelle parfois on s'engage à des degrés différents. Peut-être que la temporalité de la réflexion n'est pas toujours la temporalité de la disponibilité émotionnelle et intellectuelle de tel ou tel soignant à l'instant où la réunion se tient. Et donc je crois que dans ce cas-là, le climat de confiance, encore une fois, est primordial pour que ce professionnel puisse s'autoriser à dire « je ne crois pas que ce soit le bon moment pour que je puisse contribuer à cette réflexion maintenant ». Peut-être dans une autre temporalité, mais maintenant, ce n'est peut-être pas ma temporalité et je crois qu'on se doit aussi de pouvoir respecter cette liberté de choix pour le soignant.
Merci beaucoup, Émilie Gilbert-Fontan et Anne-Séverine Payet.
Merci
à vous. C'était Flora Bastiani pour Penser la Santé, le podcast du réseau de recherche Penser la Santé de l'Université Toulouse Jean Jaurès.